alors que nous vous avons exprimé nos vœux qui viennent du fond de nos cœurs, avec affection, je voudrais vous demander, mes frères et sœurs, comment voyez-vous cette nouvelle année qui commence? Si vous deviez la comparer à quelque chose, à quoi la compareriez-vous? Il y a certainement au milieu de nous des optimistes et des pessimistes. C'est normal, ce n'est pas une maladie. C'est un rapport à la vie, c'est un regard sur la vie. Et certains, peut-être les moins optimistes, vont dire 2025, je vais te dire comment je vois ça, pasteur, je vois ça comme une corde tendue d'à peu près 1 kilomètre de long et je dois y aller sans même... Et c'est, voilà comment je vois 2025. Il y a une manière de tenir bon, mais c'est à peu près impossible de tenir bon. Et chacun pourrait dire comment il voit personnellement 2025. Mais une fois qu'on a imaginé, une fois qu'on a laissé nos tempéraments naturels s'exprimer, optimiste, pessimiste et tout ce qu'on veut, c'est quand même bien de revenir à la Bible, n'est-ce pas? C'est quand même bien de ramener nos pensées, toutes pensées captives à la pensée de Jésus, soumise à la pensée de Jésus. Alors le titre de ce message ce matin nous donne une indication déjà, il s'agira de protéger l'huile du parfumeur. Lorsque j'ai prié, pensé, préparé ces moments, et que je me suis posé la même question que celle que je vous ai posée quelques instants en arrière, comment voyez-vous l'année 2025, j'ai vu comme cette huile du parfumeur qui est préparée. Vous savez, l'huile, à un moment, vous débouchez le flacon, ou le parfum, vous débouchez le flacon et instantanément vous sentez. Mais vous sentez parce que bien en amont, dans un laboratoire, dans un milieu approprié, avec un savoir-faire approprié, quelqu'un a préparé quelque chose. Et comme c'est bon pour chacun ici de savoir que quelqu'un a préparé quelque chose. Ce quelqu'un, oh, il y en a d'autres, mais je voudrais parler d'un quelqu'un en particulier, c'est Dieu. Votre Père Céleste et votre Créateur, qui a préparé quelque chose, ce sont des projets d'avenir et d'espérance. Et je crois que c'est tout à fait adapté de comparer les projets que Dieu a formés pour nous, comparer cette année 2025 qui commence à peine à un vase odoriférant, qui permet au senteur de cette huile du parfumeur de se dégager, de remplir la pièce. Et vous savez, certaines huiles avaient au-delà de la capacité de parfumer un espace, d'amener la guérison sur des plaies et des blessures. Je crois que Dieu a préparé une année 2025 qui ressemble à l'huile du parfumeur pour chacun et chacune d'entre nous. Même si c'est votre premier pas, il y a des choses qui existent que vous ne soupçonnez pas. Vous savez, je crois qu'en 2022, 2023, 2024 et toutes les années d'avant, si vous voulez, nous sommes passés à côté de choses magnifiques. Non pas parce qu'elles n'existent pas, elles existent, mais nous n'en avons pas pris le chemin. Il y a des chemins qui y conduisent, mais nous ne les avons pas empruntés. Et en 2025, nous pourrions, puisque le Seigneur a ouvert une voie vers sa bénédiction, nous pourrions aussi vivre et voir des choses que nous n'avons pas vécues jusque-là. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, c'est que nous n'avons jamais emprunté certains chemins. Si chacun ici pouvait emprunter le chemin que Dieu a ouvert en Jésus pour notre bénédiction, chacun pourrait voir des choses autrement plus élevées et glorieuses que ce que nous avons vu en 2024. Oui, oui, il reste encore tellement de choses. La Bible parle dans Ecclésiaste 10, verset 1, justement, de l'huile du parfumeur. Alors, on va lire le verset entier. Le verset dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Bon, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que dans ce verset, il y a une vraie mise en garde. Mais la mise en garde, elle vient pour que nous ne gâchions pas justement ce cadeau merveilleux, ce produit précieux qu'est l'huile du parfumeur. Ça parle d'abord de l'huile du parfumeur et de la nécessité de la protéger, de la préserver, afin que ce qui à l'origine était très très bon ne finisse pas par se corrompre et sentir mauvais. L'huile du parfumeur, c'est une image de l'année que Dieu a préparée pour nous. On sent le parfum en un instant, mais parce qu'il y a eu un travail en amont. Un travail qui demande un vrai savoir-faire, dans les conditions adéquates, avec des produits, des composants de qualité. Dieu a préparé une année 2025. La Bible nous dit qu'il a préparé tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce qui est nécessaire pour votre vie et pour votre piété. La piété, ben, c'est toute la dimension de vie qui est orientée vers Dieu. C'est ça la piété, notre relation avec Dieu, notre vécu avec Dieu. Et Dieu dit en 2025, je ne me suis pas laissé surprendre, mais je vous ai déjà donné en Jésus, dans ma parole, par le Saint-Esprit, par les frères et sœurs que j'ai placés auprès de vous, etc. Je vous ai déjà donné tout ce qui est nécessaire à la réussite de votre vie et de votre piété. Encore en 2025, le tout accompli de la croix vaut. Et vous pouvez encore entendre, alors que le plat, et vous avez ici un vestige archéologique d'un bol de parfumeur. Lorsque l'huile était faite et que c'était le moment d'en tirer toute la substance, on l'a versée dans un récipient ouvert comme ça. Et on laissait l'huile qui retenait captive certaines molécules de senteur, on laissait l'huile libérer peu à peu dans la pièce les senteurs qui avaient été analysées, choisies par le parfumeur. Et ça se passait comme ça. Et il y a un vase qui a été ouvert, une huile qui a été répandue. Il y a bien longtemps de ça, à peu près 2000 ans. Et le parfumeur, après avoir tout accompli, après avoir payé le prix, a dit, ça y est, pour l'humanité tout entière, une fois pour toutes, tout est accompli en Jésus. Et nous avons encore ce tout accompli. Il a préparé les victoires pour surmonter les épreuves. C'est une promesse engageante, sans date de validité. Et tout ça, c'est dans le bol du parfumeur. La victoire pour surmonter les épreuves de 2025, s'il doit y en avoir. Il a préparé toutes sortes de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Enfin, vous comprenez ici que Dieu a tout préparé et on pourrait dire que l'ensemble de tout ce qu'il a préparé constitue sa volonté parfaite, bonne, agréable et parfaite pour chacun de nous en 2025, comme l'huile du parfumeur. Et vous remarquez d'ailleurs que dans le verset que nous avons lu, dans les deux morceaux de la phrase, il y a un parallèle qui est fait entre l'huile du parfumeur et la sagesse et la gloire. Il y a un rapprochement qui est fait entre les deux. Il y a effectivement, dans le projet que Dieu a formé pour chacun de nous, une mesure de sagesse et de gloire. Alors, je voudrais surtout vous encourager, si vous commencez à découvrir le Seigneur. Si c'est la première fois que vous entendez parler d'une volonté de Dieu pour vous, alors que votre arrière-plan culturel ou éducatif ne vous prépare pas spécialement à être sensible aux choses religieuses, je voudrais vous encourager à faire votre bout de chemin en 2025 pour laisser les senteurs se propager. Vous savez, quand on ouvre trop vite et qu'on referme surtout trop vite un parfum, on n'a pas le temps de bien le sentir. Laissez. Continuez, persévérez sur le chemin que vous avez peut-être ouvert juste ce matin. Maintenant, l'huile du parfumeur, elle existe et Dieu l'a préparée. Elle est là. Et la grande question que je voudrais me poser avec vous, c'est, puisqu'elle peut être menacée, puisqu'elle est menacée éventuellement, à quel point vous et moi allons-nous protéger l'huile du parfumeur ? Elle est faite, elle est bonne, agréable et parfaite. En fait, ce qui pourrait lui arriver de mieux, c'est que rien n'y soit ajouté. Pas vrai, mais que de l'intérieur, l'huile laisse exhaler le parfum 1er janvier, 1er février jusqu'à 31 décembre. Ce serait l'idéal. Et il y a une mise en garde dans ce verset. Attention en particulier aux mouches mortes qui ont le pouvoir d'infecter l'huile du parfumeur. Bien des choses peuvent tomber en une année dans un vase de parfumeur ou quoi que ce soit. Vous regardez dans nos maisons, vous ne faites juste rien et vous êtes obligé de faire la poussière. La vie amène des choses. Et c'est impensable que dans une année entière, quelque chose n'essaye pas de tomber dans le bol du parfumeur. Ça peut aller d'un grain de poussière. Un grain de poussière sans conséquence, il est inerte, il tombe, bon, ça va un peu salir, mais ça ne va peut-être pas corrompre. Et puis, à l'autre extrême, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans l'huile du parfumeur ? Dans les maisons mal tenues, peut-être un rat qui vient se noyer dans l'huile. Un rat porteur de toutes les maladies possibles. Alors ça, c'est vraiment un gros accident dans l'huile du parfumeur. Si vous allez au restaurant et que vous trouvez un cheveu, c'est déjà difficile à accepter. Mais alors si vous allez chez le parfumeur et que dans la bouteille de parfum, il y a un rat mort, ça passe pas. Enfin, je pense. Et cette huile-là, avec un ramord, c'est tellement énorme que nous tous, si nous tombions devant un bol de parfumeur avec un ramord dedans, nous serions scandalisés en disant « Mais dans quelle enseigne sommes-nous ? Quelle est la marque de cette parfumerie ? Qui est l'artisan qui a produit ce truc ?» Et ça sentirait mauvais. Et si quelqu'un avait la bonne idée de prendre de cette huile-là et de l'appliquer sur n'importe quelle plaie, ce serait pour la mort du malade. Parce que l'huile qui était bonne a été infectée. Mais c'est tellement gros, voyons un ramord. Qui ici a un ramord dans son cœur ? Personne n'a un ramord dans son cœur. Vous savez, ces péchés tellement odieux, tellement énormes, tellement répugnants. Personne. Sauf qu'il y a, entre la poussière et le ramord, ces situations dont on ne sait pas exactement si elles sont vraiment graves ou pas. Et ce sont les mouches mortes, entre la poussière et le ramord. Oh, la poussière, on sait que ce n'est pas très grave, c'est normal, c'est la vie. Le ramord, on sait que c'est grave, il faut l'enlever. Mais la mouche morte, qu'est-ce qu'on en fait ? La mouche morte, est-ce que c'est grave ? Si je dois mettre un maillage autour de au-dessus de l'huile du parfumeur, je mets des mailles de combien ? 5 cm, 1 cm, 1 mm ? Je protège à quel point je protège ? À quel point je filtre ? On ne sait pas. Et le Seigneur vient nous dire par ce passage-là, à la bascule de 2025, mon enfant, ne t'occupe pas que des ramords dans ta vie, des péchés massifs, horribles et honteux. Ne t'occupe pas que des ramords, mais traite ce qui est assez petit pour passer inaperçu, mais assez impur pour corrompre le projet de Dieu dans ta vie. Ne t'arrête pas qu'aux ramords. Bien sûr, on est tous d'accord sur les ramords. On est même d'accord sur les poussières. Ça passe. Mais les mouches mortes, on n'est pas tous d'accord. On n'est d'ailleurs pas toujours d'accord suivant que la mouche morte est tombée dans notre vase à nous ou dans le vase du voisin. Quand la mouche morte tombe dans le vase du voisin, on pense que « Surveille un peu ton vase, regarde, il y a une mouche morte là dans ton vase. Et c'est grave la mouche morte. Mais quand la mouche morte tombe dans notre vase à nous, ce n'est pas grave. Non, mais ça c'est une gentille mouche, je la connais. Je l'ai côtoyée. Moi, c'est mon histoire qui fait que la mouche est venue là. Ben, devine, le voisin, si ce n'est pas son histoire qui fait que la mouche est venue là. Alors, on fait quoi ? On fait quoi à l'entrée de 2025 ? On discute avec Dieu pour dire, Seigneur, non, franchement, il faudrait trouver une huile avec un composant antiseptique assez fort pour que toutes les mouches mortes puissent tomber dedans, mais que ça ne change pas l'odeur et le pouvoir de guérison de l'huile. Est-ce que tu n'aurais pas ça, Seigneur ? On pourrait avoir l'huile et continuer à mettre des péchés intermédiaires, pas des graves, hein, Seigneur, les ramords, c'est fini pour moi. Et on pourrait laisser des péchés, puis ça n'aurait pas d'effet, parce qu'il y aurait une composante dans l'huile. Seigneur, ça ne pourrait pas être notre solution. Et le Seigneur dit non, on ne va pas pousser jusque-là. Tu sais quel prix j'ai payé pour te donner accès à l'huile du parfumeur ? Je te la donne et je te renouvelle mes grâces chaque matin, chaque matin. Il y a non seulement le 1er janvier de chaque année, jour auquel on attache une grande importance, mais chaque matin, un recueil de nouvelles grâces pour chacun et chacune d'entre nous. Et le Seigneur qui nous donne ça nous dit non, je ne me ferai pas l'affront de dire vas-y, mets n'importe quoi dans mon huile. Vous savez, quand quelqu'un a travaillé sur quelque chose, il faut faire attention à la manière dont on traite la chose que la personne a produite et nous a offerte, n'est-ce pas ? Parce que dans la manière dont nous traitons la chose, nous honorons ou nous déshonorons la personne qui nous a fait le cadeau. La manière dont vous avez ouvert un cadeau à Noël peut avoir réjoui ou attristé quelqu'un, n'est-ce pas ? Parce que dans le geste, il y a plus qu'une valeur financière. Eh oui. Et Dieu n'a pas prévu de mettre un antiseptique éternel dans l'huile. Il dit, je compte sur toi pour protéger l'huile que je t'ai donnée, pour que ma volonté qui est bonne, agréable et parfaite s'accomplisse. C'est possible, tu peux le faire, nous pouvons le faire, pourrait nous dire le Seigneur, ensemble, si tu le veux. Il faut croître, ok pour les ramords, les baptisés, les nouveaux baptisés, ceux qui vont vers le baptême. J'espère que vous avez renoncé à tous vos ramords, hein ? S'il y a des ramords qui traînent dans l'huile, il faut en parler très très vite. Vous avez eu des rendez-vous avec Bonnie, avec moi, et il faut vraiment traiter tout ça. Hein ? C'est jamais une solution de cacher quelque chose. On traite, on enlève, afin de repartir à zéro avec des grâces renouvelées. Mais il y a ces moments où on a l'impression qu'on a vraiment fait un beau bout de chemin, alors qu'on est seulement en cours. Et là, je voudrais vous reparler d'un témoignage que m'a raconté le pasteur Paul Redd, qui est pasteur en Irlande. Et il raconte, entre autres choses, ce moment dans lequel il a vu une personne nouvelle. On aime recevoir des personnes nouvelles. Alors, elles sont nouvelles pour nous parce que c'est la première fois qu'on les voit arriver. On aime les accueillir. Et puis, il y a un jeune qui arrive, il s'appelle Gary. Et Gary, c'est un fêtard. C'est un fêtard. Il touche à la drogue, mais il n'est pas seulement captif. Il est consommateur volontaire de drogue. Il consomme beaucoup trop d'alcool aussi. Et il vit dans des milieux qui nous feraient honte à tous. Il enchaîne les conquêtes amoureuses à un rythme qui semble impossible, mais c'est sa vie à lui. Il vient à l'église parce qu'il y a un événement qui a été organisé, qui est ouvert aux personnes nouvelles. Évidemment, c'est toujours ouvert aux personnes nouvelles. Elles sont tellement précieuses. Et il vient, il entend un petit peu les choses, puis il va voir le pasteur et il dit « Pasteur, est-ce que on peut être chrétien quand on pêche ?» Et le pasteur a pensé que ce n'était pas le moment d'aller sur la théologie. Il lui a dit « Oui, 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 oui. » À ce stade-là, il ne s'agissait pas d'entrer dans la nuance, de commencer le cours 408 sur la sanctification. On était là au cours 1. Le cours 1, c'est que « Venez à moi tel que vous êtes. » Alors il lui a dit « Oui ». Alors le gars a dit « Ok, alors je peux venir. » Parce qu'il savait bien ce qu'il était. Et il a continué sa vie, mais il a ajouté l'église. Et en allant à l'église, il a entendu une chose, deux choses. La foi est née dans son cœur. Il a commencé à saisir, à s'approprier des choses. Et quelques semaines après, il a demandé un rendez-vous personnel avec le pasteur. Et il lui a dit, « Pasteur, c'est merveilleux, ma vie a changé et je voulais vous dire, je suis tellement heureux. Je ne me drogue plus et je ne bois pas plus de 12 bières par week-end et je ne sors plus jamais avec plus qu'une femme par semaine. » Quand on est pasteur bien aseptisé, quand on est un bon chrétien, bien évangélique, et qu'on veille sur son huile et qu'on est arrivé à sortir des petites poussières, et que l'autre vient et qu'il nous dit « Je ne sors plus qu'avec une femme par semaine, gloire à Dieu », ça fait tousser quand même. Mais lui, il était content parce que par rapport à ce qu'il vivait 2-3 mois auparavant, c'était énorme. Alors le pasteur a toussé, il a contenu tout ce qu'il a pu contenir en disant « Oh, c'est merveilleux, Gary, ce qui t'arrive, c'est merveilleux. Mais souviens-toi, j'espère qu'il va entendre, souviens-toi que si le Seigneur t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, il t'aime trop pour te laisser comme tu es, il faut que tu poursuives le chemin avec lui. » Et Gary a continué le chemin avec Dieu. Il est devenu un croyant engagé, pur. Il s'est marié dans le Seigneur, il est père de 2 enfants et régulièrement, lorsqu'il croise encore son pasteur aujourd'hui, au moins 12 ans après ces événements que je viens de retracer, il rigole encore en disant « Oh pasteur, mais qu'est-ce que j'ai dû vous donner comme émotion le jour où je suis venu vous dire que c'était merveilleux parce que je ne buvais plus que 12 bières et que je ne fréquentais plus qu'une femme par semaine. » Alors c'est... Et voilà. Mais ils se souviennent de quoi ? C'est qu'un jour, ce qui ne paraissait pas grave du tout à Gary a fini par paraître grave et il a compris qu'il fallait aller plus loin dans la sanctification. Et vous savez, à un moment, ce n'est pas nous de dire si c'est un rat, si c'est une mouche. Nous devons venir à la parole et en disant « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Qu'est-ce que ta parole dit ? Wow, il y a ça dans mon cœur et ta parole dit que ça, c'est ça. Alors Seigneur, là où je voudrais me défendre, là où je voudrais me comparer avec ce qu'il y a dans le vase du voisin, je me mets dans un cœur à cœur avec toi et je dis « Seigneur, tu dis que c'est une mouche morte, tu dis que ça peut infecter. » Alors moi aussi je dis, c'est ça la confession, je dis comme toi. Tu dis que c'est péché, je dis que c'est péché, pardonne-moi Seigneur. Tu dis que c'est, alors je dis, je m'aligne sur toi et je dis que c'est. Et Seigneur, je te prie, aide-moi à purifier l'huile du parfumeur, à enlever ce que j'ai laissé tomber et à protéger l'huile du parfumeur. On a besoin de faire un petit point, oh certainement qu'on a besoin de le faire tous les jours. Mais c'est vrai que le 1er janvier est toujours une occasion de faire un point dans nos vies. Il y a des choses qui ne devraient pas passer la frontière d'un jour à l'autre. Il y a des choses qui ne devraient pas passer la frontière de 2024 à 2025. Vous avez mangé des bonnes choses en 2024. Mais il reste peut-être des fonds de plat. Puis il y a des fonds de plat qui n'ont pas leur place dans le plat suivant. Hein, c'est quand même incroyable. Que fait-on dans la majorité des foyers entre 2 repas ? La vaisselle ! J'espère que ça vous parle. La vaisselle ! La vaisselle ! Ce n'est pas que le repas d'avant n'était pas bon, mais il n'est plus bon. Et s'il y a encore des restes dans le fond d'un plat du repas d'avant, les restes se sont corrompus. Et si vous gardez les restes de l'ancien repas et que vous ne faites qu'ajouter dans les restes du repas d'avant les ingrédients du repas d'après, mais je ne veux pas manger chez vous. Je vous prie de ne pas m'inviter ou de m'avertir pour que je puisse trouver une excuse pour envoyer votre invitation toujours plus loin dans l'avenir. C'est dangereux, ça. Personne ne fait ça. Entre deux plats, on fait la vaisselle. Parce qu'on sait très bien que même une chose qui était bonne hier peut s'être corrompue et Dieu veut que toute chose soit nouvelle. Et en 2025, il y a une vaisselle à faire. Il y a du nettoyage à faire. Il y a des choses à enlever. Il y a des choses à ne pas laisser tomber. Des choses, peut-être de la taille d'une mouche morte, qui ne devraient pas franchir la frontière. Et je voudrais vous parler d'une mouche morte. Oh, il y en a plusieurs, des mouches mortes. Il y en a plusieurs. Peut-être que l'incrédulité, oh, c'est pas si grave, c'est juste que j'arrive pas à croire ça. Et vous cohabitez peut-être avec une incrédulité, une incapacité à faire confiance à Dieu sur certaines choses. Et vous dites, c'est pas grave ça. Mais vous savez, l'incrédulité, faut que ce soit Dieu qui nous en parle et pas nous qui lui en parlions. Allons voir à la lumière de sa parole ce que le Seigneur dit. Des mouches mortes, il peut y en avoir de toutes sortes, mais j'ai eu à cœur de vous parler de l'amertume. Oh, l'amertume, ce n'est pas une poussière parce que ce n'est pas complètement inerte. Mais ce n'est pas vraiment un rat mort non plus, ce n'est pas un gros péché l'amertume. Parce que quand l'amertume vient dans notre cœur en général, c'est parce qu'on a vécu des choses difficiles, pas vrai? Alors quoi? L'amertume est-elle un péché? Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est un état, une sorte de conséquence d'un moment difficile. L'amertume est-elle un projet? Je ne crois pas, non, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait jamais choisi de dire « Tiens, en 2025, j'ai rien à faire, je vais devenir amer, c'est mon projet de vie. Je vais devenir amer, acariâtre, insupportable. » Les conséquences de l'amertume, elles sont désastreuses. Et vous savez, elles sont désastreuses directement, proportionnellement à nos cercles de relations. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je laisse l'amertume gagner mon cœur, vous savez qui va être le premier cercle infecté par mon amertume? Ça va être mon épouse, la plus proche de moi. Ça va être mes enfants, très proches de moi. Et puis, ainsi de suite. Ce qui fait que je vais infecter ceux que pourtant j'aime le plus. Donc, je ne vais pas former le projet de détruire ce que j'aime. Je ne vais pas former le projet conscient de dire « Bon, 2025, moi, je vais m'abandonner à l'amertume. Je vais offrir ma vie, ma famille, mon épouse à l'amertume pour que l'amertume détruise tout. » Ce n'est pas un projet. Je ne crois pas. Comment ça se fait? Je crois que l'amertume, en réalité, c'est une sorte de produit dérivé, une sorte de produit associé. Tu n'as pas acheté l'amertume, mais quand tu as acheté quelque chose, l'amertume venait dans l'eau. Comme un échantillon, peut-être. Vous achetez un parfum et on vous glisse trois échantillons. On est sur le thème du parfum ce matin. On vous glisse trois échantillons dans votre petit sac pour que peut-être vous reveniez acheter les parfums. Vous ne les avez pas achetés, mais ils sont là. Et l'amertume, vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'avez pas demandé, vous ne l'avez pas voulu. Mais au travers d'une expérience difficile ou épreuve, vous vous retrouvez avec un échantillon d'amertume. Et là, il faut prendre une décision. La mouche morte de l'amertume. Veillez, dit l'apôtre ici. Veillez collectivement. C'est un texte écrit à une église, à l'église. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise finalement du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Infectés, souillés, pollués, contaminés. On est bien dans la logique d'une infection, transmission, contamination. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà ce que le Seigneur dit au sujet de cette mouche morte. Il n'y a pas une parole de condamnation, mais il y a une parole de mise en garde. Ce n'est pas un rat mort, mais c'est grave quand même. Comment se fait-il? L'amertume, nous l'avons dit brièvement, elle s'invite. Lorsque vous traversez un moment difficile, que vous vivez une douleur, une épreuve, une déception, quoi que ce soit, des douleurs, il y en a eu en 2024. Il y en a eu. Une chère sœur vient me voir au tout début du culte en disant, il faudra qu'on prie. La femme de mon frère a perdu son fils de 20 ans, brutalement. aura compris. Parce qu'il s'est passé ça en 2024 et en 2025, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, il y a un enjeu. Je lis encore les gros titres d'une artiste que vous connaissez peut-être et qui ouvre son cœur après avoir vécu un moment d'épreuve en 2024. Elle attendait la naissance d'un enfant, c'était un moment de joie pour elle. Sauf que peu avant la naissance, l'enfant est mort dans son ventre. Et elle a dû vivre ce qu'elle estime que personne ne devrait jamais avoir à vivre, donner naissance à un être déjà mort. Elle a vécu ça. Et dans le titre de cet article qui m'était proposé, il était écrit « Je ne suis plus celle que j'étais ». J'ai vécu ça et je ne suis plus celle que j'étais. Et puis vous continuez à lire des choses et vous entendez parler du père d'un jeune, c'est quoi précisément son nom ? Ryan. Un jeune Ryan, il a 15 ans. Tout va bien pour lui, il reste toute la vie devant lui et ses parents qui ne sont pas particulièrement aisés. On fait tous les efforts nécessaires pour lui ouvrir les portes d'un avenir satisfaisant, un avenir heureux. Sauf que le soir de la Saint-Sylvestre, il est allé faire la fête, mais raisonnablement. Il est allé retrouver quelques copains et il rentre à une heure raisonnable. Il est déposé par ses amis en voiture, il est déposé par ses amis au pied de son immeuble. Il n'est pas chargé d'alcool, le conducteur de sa voiture n'est pas chargé d'alcool, mais il est juste sur le bord du trottoir, la voiture qu'il a déposée part. Et à peine a-t-il fait son au revoir à la voiture qu'il a laissée, qu'un jeune chauffard de 19 ans arrive, je ne sais pas dans quel état, le heurte, le tue là, au pied de son immeuble, juste le jour de l'an, à la bascule de 2024 et 2025. Et lorsque je lis dans la même proposition de gros titre qui m'était faite que la proposition dans laquelle j'ai trouvé le gros titre précédent, je vois le père qui dit « On n'a plus », il se réveille en 2025, et il dit « On n'a plus de raison de vivre ». Je me réveille en 2025, mais il s'est passé quelque chose dans les dernières heures de 2024 ou dans les derniers mois, ou peu importe, mais quelque chose du passé qui est rentré en 2025. Et alors que je pensais avoir devant moi un parfum pur et de bonne senteur, j'espérais dans une année bénie ou une année réussie. Et je vois que quelque chose s'est produit et il y a un danger sur ma vie, un danger de tomber dans l'amertume, un danger de ne plus voir la vie pareille, un danger de voir cette épreuve qui m'est arrivée me transformer dans ce que je suis et devenir une personne amère, une personne difficile à fréquenter, une personne qu'on ne veut pas fréquenter. Parce que la mouche morte, ce n'est pas un gros péché, mais elle a quand même infecté l'huile. Et au début, ça sentait bon, mais au fil des jours qui passent, il y a des relents. Il y a des relents irrespirables. Et vous savez, quand quelque chose ne sent pas bon, soit vous éloignez la chose, soit vous vous éloignez, vous, de la chose. Et c'est comme ça que parfois, on crée de la solitude autour de nous. On n'est pas responsable des épreuves qui nous sont arrivées. Et on a beaucoup de compassion pour tous ceux qui traversent des douleurs dans la vie. Mais au milieu de ça, nous devons veiller à la mouche morte de l'amertume qui peut faire rater tout le projet de Dieu. Alors que vous n'êtes pas responsable peut-être de la douleur qui vous est arrivée. Comme ni l'un ni l'autre de ceux que nous avons cités ne sont responsables de ce qui leur est arrivé. L'amertume, la mouche morte de l'amertume. Les douleurs, les déceptions, ça marche très très bien aussi. Super terreau pour l'amertume, les déceptions. Déçu d'une année, 2024 vous a déçu et vous commencez amer 2025 et vous commencez déjà à annoncer que ce sera une mauvaise année. Parce que 2024 a érodé assez votre foi pour vous rendre amer. J'ai espéré beaucoup en 2024 et voici, j'ai eu peu. Alors pourquoi j'espérerai en 2025 ? Et on ne sait pas, on vous croise et on ne sait pas si on doit vous souhaiter la bonne année parce que l'amertume se dégage peut-être de quelqu'un. Et alors on ne sait plus vous souhaiter la bonne année parce que l'amertume se dégage d'un cœur. Déçu d'une année, déçu d'un patron, déçu de son conjoint. Déçu d'un parent, déçu d'un enfant, déçu d'un frère, d'une sœur dans la foi, d'un projet qui ne se réalise pas, d'une relation sentimentale qui n'a pas abouti ou qui n'a même pas commencé, d'un projet de baptême qui n'est pas allé au bout, peut-être, pour quelqu'un. Le désir de voir un être cher se convertir au Seigneur. Une situation s'arranger, et là vous êtes déçu. La déception, ça se comprend, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps, et parfois son temps n'est pas le nôtre. La déception, ça se comprend. Mais que l'amertume vienne se glisser là, ça, Dieu dit, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la tienne. Prends garde aux mouches mortes. J'ai compassion pour ce que tu as souffert. J'ai délivrance pour l'épreuve dans laquelle tu es. Je sais où tu es, car mes yeux sont sur toi, dit le Seigneur dans sa parole. Mais la mouche morte, c'est toi qui en es responsable. L'amertume, c'est toi qui en es responsable. C'est toi qui dois la dominer. Et comme à Caïn, le Seigneur peut s'approcher de nous avec beaucoup d'amour. Caïn qui avait déjà dans son esprit tellement d'amertume, tellement de jalousie vis-à-vis de son frère qu'il prévoyait de le tuer. Et le Seigneur lui a dit, le péché se couche, se tapit à ta porte. Fais attention, c'est à toi. Dieu qui vient, qui avertit Caïn, mais qui ne l'empêche pas de faire. Dieu n'enlèvera pas les mouches mortes que nous laissons tomber dans l'huile. Il sait que nous pouvons le faire et qu'à un moment, si nous le faisons ou nous ne le faisons pas, ça résulte d'un choix, n'est-ce pas ? Alors, parfois, on n'a pas pris conscience et je crois que ces paroles que le Seigneur nous donne, comme ce matin, elles sont faites justement pour éveiller notre conscience et que nous prenions la juste dimension des choses qui sont peut-être en train d'arriver dans nos cœurs. Mais une fois que la conscience est là, la responsabilité nous reste entière. Notre foi, alors que nous considérons les souffrances de ceux qui sont sans Dieu et qui souffrent terriblement ici-bas, et nous avons une grande compassion pour tous ceux qui souffrent, croyants ou pas, n'est-ce pas ? Oui, rassurez-moi. Nous avons une grande compassion pour tous ceux qui souffrent. Mais nous avons l'avantage dans les souffrances de la vie d'avoir une foi qui nous porte, une foi qui n'est pas qu'une théorie, une pensée positive, pour voler un peu à la façon de Peter Pan au-dessus des galères quand on en rencontre trop. Ce n'est pas une pensée positive, c'est un cordon ombilical, si on peut dire, qui nous relie à Dieu notre Père, une relation réelle, qui nous transmet sa vie lorsque de notre côté c'est difficile. Et Job, par exemple, vous le connaissez, a vécu des grandes difficultés, vraiment des grandes difficultés. Et il a tout surmonté très rapidement. Et lorsqu'on lui apprend qu'il a perdu tous ses biens, ses serviteurs, ses troupeaux, jusqu'à ses enfants, il y a quelque chose d'inimaginable qui sort de la bouche de Job qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Ça fait vraiment mal quand il reprend. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne sais pas si c'était un 1er janvier pour Job, mais il n'a pas laissé, alors qu'il avait vécu dans la journée peut-être du 31 décembre, des épreuves terribles, il n'a pas laissé l'amertume tomber dans l'huile de l'année suivante. Il a aseptisé par un refus de la rancœur, un refus de l'amertume, il a aseptisé l'huile du projet de Dieu pour son avenir. Et ça n'a pas été simple, c'est certain, mais on voit quand même à la fin du livre de Job la restauration que Dieu lui accorde. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand Dieu lui a dit à lui-même, « Bon, ce n'était pas simple avec les consolateurs que tu avais autour de toi. Hein ? Ça aurait été plus simple si tu n'avais pas eu de consolateurs. Mais enfin bon, tu as eu des consolateurs. Ceci dit, même s'ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire et que tu étais en souffrance, je te dis que ce que tu as laissé tomber dans ton huile, ça, ça et ça, ce n'est pas bon. » Et Job a dit, « Ok, j'ai souffert, j'ai eu mal comme peut-être personne n'a eu mal avant moi, mais... je reconnais, Seigneur, quand tu me parles de ce que j'ai laissé tomber dans mon huile, que ça reste mauvais, que ça ne devrait pas être là, et que je l'ai laissé tomber dans l'huile, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job, qui souffre énormément, arrive à dire, « Oui, Seigneur, c'est une mouche morte, pardonne-moi. » Alors moi, je pense que nous, qui n'avons pas souffert, je pense encore comme Job. Même si je sais, je connais trop bien les histoires de ceux qui sont au milieu de nous pour savoir qu'il y a des souffrances immenses dans certaines de nos histoires. Je respecte énormément, et vous avez toute ma compassion, évidemment. Évidemment. Cependant, si Job, par la grâce de Dieu, a pu le faire, nous pouvons toutes et tous refuser l'amertume en 2025. Nous pouvons en lui. Nous pouvons. Comment seulement réagissons-nous à l'épreuve, à l'injustice, à la déception ? Comment réagissons-nous aux épreuves en cherchant des responsables ? On a dit tout à l'heure qu'il y avait des optimistes et des pessimistes. Ben, il y a aussi des rancuniers et puis des easygoing. L'inverse de rancunier, c'est quoi ? Ok, ben c'est ça. Il y a tout sur la palette. Il y a tout sur la palette. Et à un moment, ben, chacun ne réagit pas de la même manière. Mais comment on réagit lorsque on vit une épreuve ? En cherchant des responsables ? Ah oui, il y en a, et je peux le comprendre, et ce n'est pas une pierre lancée, qui cherche des responsables. Super terrain pour l'amertume. Comment répondons-nous aux déceptions ? Par l'accusation, par la détestation ? Super terrain aussi pour l'amertume. Comment répondons-nous à la douleur ? Par la désespérance ? Par l'abattement ? Mais comment ça se comprend, ça ? Ça se comprend. C'est dur. Et pourtant, ça reste une belle opportunité pour l'amertume. Et alors, l'amertume se développe, mais vous avez vu ce passage-là, elle se développe comme une racine. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune tache d'amertume, aucune racine d'amertume, pardon, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une racine, ce n'est pas un arbre, c'est une racine. C'est-à-dire que la racine, quand elle est là, vous avez déjà cultivé un bout de terre, vous tombez sur une racine, il y a des choses autour de vous, mais alors à quelle plante cette racine est reliée? Alors là, si vous voyez l'arbre en question ou le plant, vous diriez, ah ben c'est clair, ça c'est un, je ne sais pas ce que vous avez planté dans votre jardin, mais voilà, vous savez ce que c'est. Mais quand il n'y a que la racine, c'est moins facile. C'est moins facile. Et l'amertume est décrite comme une racine qui se faufile, qui est un petit peu sous la terre. Elle évolue sous la surface et lorsqu'elle dépasse, elle fait chuter ceux qui ne lèvent pas assez les pieds. Ça arrive, ça, hein ? Elle évolue sous la surface et, vous savez, la racine, elle fait ça, elle absorbe les nutriments. Elle absorbe. Puis s'il y a trop de racines au même endroit, il n'y a plus rien qui pousse. Parce que les racines ont capté tous les nutriments de la terre et c'est devenu une terre stérile. Les racines. L'amertume. Ça court de loin, peut-être. Elle est là, la racine. Et puis, il est parlé de rejetons qui vont partir de la racine. Ils vont se dire, oh tiens, il y a quelque chose qui pousse là. En réalité, si vous descendez le rejeton, vous trouvez la racine, vous remontez la racine en la dégageant au fur et à mesure, vous arrivez peut-être à... C'est impressionnant, vous savez qu'ici, quand on a aménagé la surface du terrain, on avait à peu près 80 peupliers de toute hauteur qui faisaient une clôture verdoyante autour de la propriété. Et on a dû traiter les plants pour repartir sur quelque chose de neuf, comme on a là. Mais alors, quand on a coupé les arbres, si vous pouviez savoir tout ce qui a pu rejaillir à des dizaines et des dizaines de mètres, jusque sur la voie publique, jusque chez les voisins, avec des rejets de peupliers, partis d'une racine. Mais les arbres, ils étaient chez nous. Ben maintenant, ils sont chez eux. Et parfois, vous avez une racine, personne n'a vu, elle s'est faufilée, il pousse un rejeton, et c'est lié au bout de la racine, si vous la remontez, à un arbre que vous pouvez identifier, peut-être de non-pardon, de révolte contre un projet de Dieu, contre la façon dont des choses se passent, de détestation, quoi que ce soit. L'arbre est loin, mais ça y est, il est arrivé jusqu'ici, et il va prendre du terrain. Et il faut agir vite, il faut agir vite. Le plant d'amertume est le plus faible lorsqu'il est jeune, pas vrai? Il y a des cultivateurs ici, des jardiniers, du dimanche, lundi, mardi, tous les jours que vous voulez. Quand vous tombez sur un morceau de liseron dans la partie que vous cultivez, quand vous voyez un peu de liseron, tous ceux qui connaissent un peu à quoi on a affaire quand on est face à un morceau de liseron, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Oh, je pensais planter, je ne sais pas, mes radis ou ce que je voulais aujourd'hui, je vais changer mes plans parce que la priorité absolue, c'est d'aller chercher le liseron et d'enlever tout ». Ça va me prendre un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas, parce que souvent, il y a quelque chose en dessous. Mais on va s'occuper de ça. Pareil pour les orties et autre chose. Il faut vraiment s'en occuper rapidement. Sinon, vous n'avez plus qu'à cohabiter avec. Quand le liseron est installé, eh ben, il est installé. Voilà. Et c'est certainement un peu pareil avec l'amertume. Vous connaissez, vous avez entendu ce témoignage. Il est bouleversant. Il est bouleversant. Vous avez ici la famille Staines. Ce sont des Australiens. Des Australiens qui ont rencontré Dieu un jour et qui ont dit « Nous voulons, les parents en particulier, nous voulons que tous les autres sur cette terre, en particulier ceux qui sont éprouvés par la vie, sachent que Dieu les aime et qu'ils peuvent recevoir le salut en Jésus. » Et ils ont dit « On va devenir missionnaires. » D'Australie, ils sont partis servir le Seigneur en Inde. Et l'Inde, c'est un très très grand pays, vous le savez, avec plusieurs États. Il y a des États dans lesquels la vie pour les églises est assez sereine, assez paisible, dans le sud en particulier. Mais dans le nord de l'Inde, dans les états du Gujarat, de l'Orissa ou autres, c'est beaucoup plus tendu. Il y a une domination hindouiste extrémiste avec des persécutions réelles. Et un jour, alors qu'eux avaient dit « on va aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas entendu », ils ont dit « on va en Inde, mais on ne va pas aller dans le sud, on va aller dans le nord ». Et on va annoncer l'évangile à ceux auxquels même les gens de la société ne veulent plus parler, les intouchables, les lépreux. Ils ont ouvert une léproserie. Ils s'y rendaient avec des soins médicaux, ils annonçaient l'évangile, et puis ils ont fait d'autres actions encore pour annoncer l'évangile. Et plusieurs, beaucoup, ont trouvé le salut en Jésus. C'était merveilleux. Sauf que les extrémistes hindous ont été gagnés par la haine, et un jour, lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont enfermé le missionnaire et ses deux plus jeunes enfants, âgés de 7 ans et 9 ans, dans la voiture. Et ils ont mis le feu à la voiture. Il n'est plus resté d'eux qu'au milieu des cendres, des restes de leur squelette. Et ceux qui ont interprété les choses ont constaté qu'ils étaient tous les trois serrés les uns contre les autres. Et la maman dit, je pense, connaissant mon mari, je pense que mon mari les a rassemblés pour prier pour eux. Dans ce moment où ils ne pouvaient pas échapper aux flammes. Ils sont morts en 99. En 99, et vous imaginez quand vous travaillez, quand vous traversez ça, comment vous commencez 2000 ? Bienvenue en l'an 2000, disait une petite poupée que nous avions chez nous. On appuyait dessus, elle faisait le décompte, et le passage à l'an 2000, c'était quelque chose qui était censé être à la fois redoutable et extraordinaire. On a changé de millénaire, rendez-vous compte. Alors il y avait quoi, en 1er janvier 2000, dans le cœur de cette personne, cette chère missionnaire et de sa fille de 13 ans, qui venaient de voir leur père, époux, frère, fils brûlés vifs dans une voiture. Restait quoi ? Mais ils n'ont pas laissé, alors que la douleur était énorme, ils n'ont pas laissé la mouche morte de l'amertume tomber dans l'huile. Et lorsqu'elle écrit, je l'avais mis cet extrait, la femme missionnaire, toujours engagée aujourd'hui, dit, j'ai un seul message pour le peuple d'Inde. Je ne suis pas amer, je ne suis pas aigri, je ne suis pas rempli de colère, mais je voudrais que vous connaissiez Jésus. Oh, oh, oh. C'est quand même extraordinaire. Et depuis que ce malheur est arrivé et qu'il a été surmonté sans amertume, le travail qui a été initié par Graham Stentz est aujourd'hui poursuivi, mais a pris une ampleur beaucoup plus grande sous la conduite de son épouse Gladys Stentz. Parce que l'huile est restée pure et son parfum maintenant a gagné tout le nord de l'Inde. C'est extraordinaire. Mais elle a compris, et Claudio qui était avec nous, le pasteur Claudio, nous racontait comment, lorsque cette femme a appris la nouvelle, le lendemain, lorsqu'elle a essayé de se réveiller, de comprendre ce qui s'était passé, elle a pris une décision. Elle a dit, je refuse de sombrer dans l'amertume. Je pardonne aujourd'hui à ceux qui ont mis à mort mon mari et mes enfants. Oh, je ne sais pas faire ça. Je ne veux pas vérifier. Je ne veux pas avoir à vérifier si je suis capable de faire ça. Mais j'admire la maturité spirituelle, la force de cette femme. J'admire cette femme qui dit, je suis en train de vivre quelque chose qui est innommable. Je ne peux pas me comparer, je ne connais personne qui ait vécu ça. Et ce que je sais, c'est que le diable est comme un lion rugissant qui voudrait laisser faire tomber dans mon huile au travers de ces circonstances terribles, des choses qui n'ont pas leur place. Et ça, je sais que c'est à moi de veiller dessus. C'est à moi. La grâce dont j'ai besoin pour me relever de tout ça, elle va me venir de Dieu. Mais les mouches mortes, c'est ma responsabilité. Alléluia. Est-ce que l'équipe de louanges peut monter au terme de ces moments ? L'amertume, c'est une racine. Il faut l'enlever tout de suite. La Bible nous dit que la racine pousse des rejetons à un moment. On ne voit rien. Le moment d'après, hop, on voit des choses, des rejetons, des paroles, une dureté, des propos qui sont chargés d'amertume. Ce sont les rejetons. Et puis, si on les laisse, ben, y a le fruit. Et le fruit, dit cette parole que nous avons lue tout à l'heure, c'est le trouble. Le trouble qui devient capable d'infecter. Alors, est-ce qu'on peut la vaincre, l'amertume ? Si quelqu'un dit, moi, si tu connaissais mon année 2024, Jonathan, je n'ai pas osé t'en parler. En 2024, je n'ai pas vécu ce que Gladys Stentz a vécu. Mais j'ai vécu des choses, j'ai vécu ça et ça et ça. J'ai perdu mon compagnon de vie, mon cher époux. Ça, on le sait. Et toute notre compassion va pour ceux qui ont perdu un être cher en 2024. Mais il m'est arrivé différentes choses. Et ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Et je le vois bien qu'il y a des mouches qui sont tombées. Je le vois bien parce que l'huile, elle dégageait des choses bonnes, des choses de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Mais depuis qu'une ou deux mouches sont tombées dans mon huile, on me dit autour de moi que je ne suis plus comme avant. Mon amour, on ne le sent plus. J'en parle, on ne le sent plus. Ma joie, c'est pareil, c'est devenu une théorie. On ne la sent plus. La paix, je l'ai perdue. Des mouches sont tombées. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir ? Oui, il y a une façon de s'en sortir. Regardez ici, en terminant. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous savez, l'amertume, elle vient quand à un moment, vous vivez quelque chose de difficile et que vous ne croyez plus que la grâce de Dieu suffit. C'est finalement pour ça que l'amertume se développe. Parce que vous en voulez à Dieu qui n'a pas été fidèle, et s'il n'a pas été fidèle, pourquoi le serait-il maintenant ? Pourquoi le serait-il demain ? Alors, il y a une sorte d'ambivalence dans votre sentiment vis-à-vis de Dieu. Et autant on a un Job qui a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Autant de l'autre côté, on a une Naomi dans Ruth, premier chapitre. Une Naomi qui le nom signifie « ma gracieuse », elle est remplie de grâce. Et un jour, la famine touche la ville de Bethléem dans laquelle elle habite. Son mari dit « on va aller à Moab, on va sortir de notre héritage ». Le temps que la famine passe. Et finalement, là, en Moab, le mari décède et les deux fils décèdent aussi. Tragédie ultime. Il ne reste plus là que Naomi et ses deux belles-filles. Et lorsqu'elle rentre à Bethléem, apprenant que finalement le Seigneur a visité son peuple et qu'il n'a pas laissé mourir ceux qui ont gardé leur héritage, elle est accueillie et puis les uns les autres disent « mais est-ce que ce n'est pas Naomi ? Est-ce que ce n'est pas ma gracieuse, la gracieuse ?» Et elle dit « arrêtez de m'appeler Naomi, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, alors appelez-moi Mara, ce qui signifie amère. » Elle était devenue amère, elle. Est-ce qu'on peut s'en sortir à un moment ? À un moment, il y a ce quelque chose qui bascule en nous, qui nous fait dire qu'on a trop souffert cette fois-ci, que c'est trop grave, que le bonheur n'est plus possible, que certainement on a péché, que Dieu nous a privés de bénédiction et que nous sommes maintenant à nouveau seuls sur le chemin de la vie. Non, c'est faux. Veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce qui se renouvelle chaque matin. La grâce qui se renouvelle le 1er janvier, le 5 janvier, tous les jours de votre vie. Deux sources, la rupture avec la grâce de Dieu et la deuxième, et c'est à la fin du verset, veillez à ce que aucune racine d'amertume ne pousse et à ce que personne n'en soit infecté. Il y a une personne qui fait un choix, puis vous n'êtes pas loin de la personne qui a fait un choix, qui a laissé l'amertume pousser, et juste parce que vous n'êtes pas loin, trop près de la personne qui a fait un choix, de tolérer l'amertume, de laisser l'huile de son cœur se corrompre. L'huile de votre propre cœur à vous commence à se corrompre. Ça ne vous concerne même pas, ça ne vous touche même pas, c'est son histoire, ce n'est pas la vôtre. Mais parce que vous côtoyez la personne qui a fait le choix de l'amertume, qui défend l'amertume, vous commencez à être gagné vous aussi l'amertume. Commencez à changer de regard sur des personnes que vous ne connaissez même pas, à faire des reproches à des personnes auxquelles vous n'avez aucun reproche à faire, à être amer envers des gens que vous n'avez jamais croisés, du président de la République jusqu'à le grand patron de votre entreprise peut-être dont vous entendez parler, que vous n'avez jamais croisé. Mais ça y est, l'amertume est entrée dans votre cœur parce qu'elle était dans le cœur du voisin et vous étiez trop près du voisin. Alors oui, il y a besoin. Si nous voulons, et je crois que c'est le cas, commencer l'année 2025 avec la grâce de Dieu, sans laisser l'huile de sa volonté parfaite être infectée par les mouches mortes, entre la poussière inerte et le rat mort qui contamine directement avec évidence les mouches mortes. Oui, je crois qu'il y a une victoire. Je crois que nous pouvons tous triompher ce matin. Qui s'est privé de la grâce de Dieu ? Qui a cessé de croire que Dieu était suffisant ? Jérémie a dit à un moment, je n'ai plus vu que l'absinthe, le poison, ma détresse et ma misère. Et mon âme en a été abattue au-dedans de moi. J'ai dit, je suis sans espérance. C'est en vain que j'ai sanctifié mon cœur, dit un autre psalmiste. Et finalement, Jérémie dit, mais voilà ce que j'avais oublié, ce que je veux repasser sur mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses grâces se renouvellent chaque matin. Et alors que Jérémie réoriente son regard et dit « Il y a encore une part de grâce, même si j'ai souffert en 2024, il y a encore la grâce suffisante. » Eh bien, c'est finalement son cœur qui enclenche naturellement en louange et en adoration. Et il commence à crier vers Dieu en disant « Que ta bonté est grande, ô Éternel. Que ta fidélité est grande. » Croyez-vous que vous pourriez ce matin renouer avec la louange spontanée de votre cœur ? Je le crois en quelques instants. Si vous renouez, après vous être peut-être privé de la grâce de Dieu, après ne plus avoir cru, si vous renouez avec la grâce de Dieu, il y a des choses qui m'ont déçu, il y a des choses qui m'ont blessé, mais je crois, Seigneur, que tu es tout suffisant pour ces choses. Et je confesse que rien ne t'a échappé, je veux tout remettre sous ton contrôle et je veux enlever les mouches mortes. Est-ce qu'on peut se lever à nos places, nous tous, frères et sœurs, qui sommes appelés, bien sûr, par cette parole à nous positionner ? Le Seigneur dit, j'ai prévu. En 2025, des choses, j'espère seulement que tu vas veiller sur les mouches mortes qui pourraient tout gâcher. J'ai prévu. Alléluia. Faut que tu reconnectes avec ma grâce. Et faut que tu t'éloignes de ceux qui ont fait un autre choix. Paul dit à Timothée, il faut que tu recherches l'amour, la joie, la paix avec ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui ont laissé l'amertume prendre, t'es obligé de t'éloigner, t'es obligé. Mais toi, fuis les passions de la jeunesse, fuis les choses dangereuses et recherche les choses saines avec ceux qui ont fait les mêmes choix que toi. Est-ce que nous pouvons prier et nous positionner devant le Seigneur ce matin ? Nous sommes dans les premiers jours de 2025, Seigneur, et nous nous plaçons devant toi parce que nous voulons vivre ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, on en a vécu en 2024, on a vécu des choses heureuses, on a vécu des choses difficiles. Pour certaines d'entre elles, elles sont réglées et nous avons, mardi dernier ensemble, rappelé certains témoignages de ce que tu as fait en 2024. Il y a des choses qui se sont arrivées en 2024, qui ont été réglées en 2024. Il y a d'autres choses qui ne sont pas réglées encore. Des choses qui font encore mal, des choses qui font poser question, des choses qui ont déçu. Seigneur, ce matin, nous voulons nous tenir devant toi parce que nous entendons que tu nous mets en garde chacun pour notre part. Vis-à-vis de ces mouches mortes, c'est entre la poussière et le rat mort, entre le pas grave du tout et l'extrêmement grave, mais ça a le pouvoir de corrompre quand même. Tu nous mets en garde contre l'amertume notamment qui pourrait corrompre l'huile de 2025. Nous voulons venir devant toi, Seigneur, te demander pardon peut-être de ne pas avoir cru que tu maîtrisais les choses qui nous ont déçus ou blessés, de ne pas avoir cru qu'en son temps tu guérirais, en son temps tu restaurerais, en son temps tu changerais le mal en bien selon ta promesse. Pardon de ne pas avoir cru. Pardon, Seigneur. Pardon peut-être de ne pas avoir protégé mon huile et d'avoir côtoyé de trop près des personnes dans mon environnement professionnel ou n'importe lequel. Des personnes chargées d'amertume, dont l'amertume a gagné mon propre cœur. Pardon aussi, Seigneur, parce que je constate ce matin qu'après avoir laissé la mouche morte de l'amertume tomber dans mon cœur, j'ai peut-être infecté d'autres autour de moi. Il y a une joie, il y a quelque chose qui a quitté mon foyer. Je vois que je crée un isolement autour de moi. Et j'ai l'impression de comprendre ce qui se passe ce matin. Je te prie de me pardonner, Seigneur, pour l'amertume que j'ai pu semer autour de moi. Je veux tout régler ce matin afin que 2024 soit une année de réussite dans le nom de Jésus. Seigneur, que dans ta grâce, chacun ici puisse sentir les senteurs parfaites de l'huile que tu as préparée. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, et nous prions qu'elle se produise pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.